tout de suite une émission consacrée au rôle des femmes dans la société. Nous avons le plaisir d'accueillir Elena et Marion qui nous apporteront leur point de vue sur cette thématique cruciale.
Et bonjour à tous, nous voici en direct de la Radio des Falaises et vous êtes en direct avec Elena et Marion. Nous en parlons depuis plusieurs années maintenant car ce sujet est au cœur de l'actualité. Nous avons tous évidemment notre point de vue sur le sujet mais nous ne l'approfondissons pas forcément. Il s'agit évidemment du sexisme. Avec ma camarade, nous allons donc vous présenter nos thèmes afin peut-être de confirmer ou de changer votre avis sur le sujet. Tout de suite, c'est parti. Commençons avec l'évolution de la place de la femme dans la société. Jusqu'à la fin des années 1950, l'image de la femme au foyer était omniprésente. Les gens à l'époque trouvaient cela juste naturel qu'une femme s'occupe de ses enfants, fasse le ménage, la cuisine et que les hommes, eux, ramènent l'argent à la fin du mois. Les femmes étaient souvent associées à des êtres simples d'esprit. Il est vrai que c'est mieux aujourd'hui. Elles peuvent tout faire, voter, aller à la banque pour pouvoir gérer leur propre argent et l'utiliser comme bon leur semble sans l'accord de leur mari, travailler sans l'autorisation de leur époux, et ce depuis 1965. Et l'écart entre les hommes et les femmes se resserre de plus en plus, même s'il n'est pas encore totalement égal, comme le salaire qui est souvent moins élevé chez la femme, d'environ 25%. Aussi en politique, il y a moins de femmes que d'hommes, comme par exemple, le nombre de ministres de femmes est de 22,8% dans le monde, soit environ 15% en France. Mais il y a de grosses améliorations, comme dans l'entrepreneuriat, où de plus en plus de femmes y pratiquent leur activité. Aujourd'hui, en tant que femmes, nous pouvons dire que nous avons notre place dans la société.
Nous nous sommes battus pour gagner notre place, mais sommes-nous bien entendus ? Parlons du temps de parole des femmes dans la société actuelle. L'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, a dévoilé une étude de grande ampleur sur le temps de parole des femmes dans les médias. Et la conclusion est sans appel. Elles parlent deux fois moins que les hommes à la télévision et à la radio. Un très net déséquilibre qui a été mesuré par une intelligence artificielle. Les prises de parole des femmes à la télévision représentent moins d'un tiers du temps de parole donné en tout, qui est de 32,7%. La distinction est nette et malheureusement très stéréotypée. Les chaînes visant un public féminin comme Teva ou Chérie 25 recense le taux le plus élevé de temps de parole féminin, mais il reste minoritaire, alors que les chaînes diffusant du contenu sportif comptent les pourcentages les plus faibles, comme 7,4% pour Eurosport et 16,5% pour l'équipe. Toutefois, pour retenir une note positive, l'évolution de ce temps de parole des femmes est à la hausse. Le temps de parole des femmes à la radio a augmenté de 9,3% entre 2001 et 2018 et de 4,7% à la télévision de 2010 à 2018. C'est une inégalité qui tend à se réduire, mais très lentement. Nous sommes sur la bonne voie.
Nous sommes plus visibles dans notre société et plus écoutés, mais parlons aussi d'une femme qui a marqué la vie politique française. Faisons un constat. Il y a beaucoup moins de femmes au pouvoir que d'hommes. Cependant, nous allons vous en présenter une en particulier de parcours ce qu'elle a fait. Nous savons que seulement 10% des pays sont dirigés par des femmes et seulement 16,9% des femmes sont maires en France. Bon, nous allons maintenant passer à une femme très importante que tout le monde connaît, je pense. Il s'agit de Simone Veil. Passons maintenant à son histoire. Simone Veil a été ministre de la Santé et a été membre du Conseil constitutionnel. Elle a été ministre d'État. C'est une femme que nous n'avons jamais failli connaître car elle a été en camp de concentration alors qu'elle n'avait que 16 ans et à cet âge habituellement on était destiné à aller directement à la chambre à gaz. Elle a vécu des choses horribles dans les camps avec sa mère et sa sœur, mais elles sont toujours restées ensemble. Malheureusement, les conditions de vie, la famine et la maladie ont emporté sa mère. Après les camps, elle a rencontré son conjoint et ont 3 enfants, mais elle ne voulait pas dépendre de son mari. Elle voulait donc être avocate. Lorsqu'elle exerçait cette profession, elle travaillait dans les prisons pour voir les conditions de vie désastreuses des prisonniers. Elle a tenté de les aider. Elle a aussi parlé avec des gens ayant le sida pour comprendre leur douleur due à leur maladie, leur hospitalisation, etc. Elle a ouvert des centres pour les personnes ayant des addictions. Mais la loi que Simone Veil a fait voter pour les femmes et qui, je pense, est la plus connue, c'est le droit à l'avortement, dite loi Veil. C'est une loi encadrant une dépénalisation de l'avortement en France. La loi a été très dure à voter car beaucoup n'étaient pas d'accord avec elle et ne voyaient pas les choses de la même manière. Finalement, avec persévérance et beaucoup de débats, cette loi a fini par être votée en 1975. Cela a changé la vie de beaucoup de femmes, obligées de recourir à l'avortement clandestin qui faisait plus de 300 000 victimes par an. À la fin de sa vie, Simone Veil a décidé de retourner dans les camps d'Auschwitz avec ses enfants et ses petits-enfants afin de leur montrer ce qu'elle a vécu, mais aussi sa mère et les milliers d'autres gens décédés dans les camps, ceux qui ont eu aussi des séquelles à vie. Sa vie n'a pas été facile du tout, mais malgré tout, c'est une grande source d'inspiration et a fait des choses incroyables au cours de sa vie. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur elle, un film de Olivier Dana reprend son histoire Est sorti cette année au cinéma. Au passage, petite recommandation, un livre de Simone Veil est disponible et a été écrit par Hervé Dufaux et Pascal Bresson. Il est d'ailleurs au CDI. Il retrace l'histoire de Simone Veil sous forme de BD, nous permettant de découvrir une nouvelle forme d'autobiographie. Il y a bien sûr aussi son autobiographie écrite par elle-même. Voilà, j'espère vous avoir décidé à la découvrir pour en savoir plus sur elle. Et après Simone Veil, parlons d'autres femmes engagées ayant changé l'histoire. Commençons avec une femme forte et courageuse qui a fait changer tout un tas de choses, notamment sur le racisme. Rosa Parks, son engagement contre la ségrégation raciale, commence avec son mari en 1940 aux USA. Elle rejoint la Montgomery Voter League et aide les personnes de couleur à réussir leur test d'inscription aux listes électorales. Elle devient la secrétaire d'Edgar Nixon, dirigeant de la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, pour la défense des droits civiques. Puis arrive ce fameux jour, 1er décembre 1955, Rosa Parks est assise dans le bus lorsque le conducteur lui demande de se déplacer pour laisser la place à un blanc. Mais elle ne voulait pas encore céder et se soumettre une fois de plus. Elle refuse et est arrêtée. Son avocat, Edgar Nixon, saisit l'opportunité de faire de cet acte un combat contre la ségrégation raciale. Et nous allons maintenant parler d'une autre femme, partons faire des sciences. Maria Salomea Skłodowska s'implique très jeune dans sa scolarité. À cette époque en Pologne, les études supérieures étaient interdites aux femmes. Elle intègre une université clandestine. À l'âge de 24 ans, elle part rejoindre sa sœur à Paris et s'inscrit à la faculté des sciences pour y suivre des études de physique. Si je vous dis qu'elle rencontre Pierre Curie, avec qui elle se marie peu de temps après, vous avez compris de qui je parle maintenant. Et oui, je parle de la célèbre scientifique franco-polonaise Marie Curie. L'arrivée de leur premier enfant comble le couple Curie, mais la jeune Marie refuse de se cantonner au rôle de mère et d'épouse. Le duo de scientifiques se plonge dans l'étude de la radioactivité. Marie Curie, alors âgée de 36 ans, se voit attribuer avec son mari le prix Nobel de physique pour leur découverte sur le phénomène des radiations en 1903. Elle devient la première femme à recevoir une telle récompense et elle renouvelle l'exploit en 1911 en recevant seule cette fois-ci un deuxième prix Nobel en chimie cette fois. Marie Curie est la seule femme à avoir reçu deux prix Nobel. Après avoir parlé d'une grande femme politique française et avoir parlé d'une immense scientifique franco-polonaise de renommée mondiale, nous finirons avec une star du cinéma. Les générations Y et Z ont grandi avec elle. Petits garçons et petites filles ont suivi les aventures de la brillante Hermione Granger dans la saga Harry Potter. Mais la jeune sorcière est aujourd'hui une trentenaire engagée pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Si de nombreuses personnes défendent le féminisme, Emma Watson aborde la problématique sous un angle différent qui vise à inclure les hommes. En 2014, lors de son discours présentant le mouvement He for She, elle s'adresse directement aux gens à la gente masculine. C'est une campagne de solidarité pour l'égalité des sexes lancée par l'ONU. Il a été créé le 20 septembre 2014 à New York. Le but est de faire participer les hommes dans le combat de l'égalité des sexes et le droit des femmes. Emma a d'ailleurs dit « L'égalité des sexes, c'est votre problème aussi ». Elle met en évidence que les hommes sont enfermés tout comme les femmes dans des normes sociales et qu'il serait bon de les briser. Avec son approche d'inclusion percutante et engageante, elle rallie les hommes auprès des femmes pour agir ensemble contre l'égalité des sexes. Elle ajoute « Les hommes comme les femmes devraient avoir le droit d'être sensibles comme ils devraient avoir le droit d'être forts ». Cette déclaration d'Emma permet de mettre les hommes et les femmes encore plus à égalité sur le plan physique mais aussi moral.
Passons à présent à un tout autre sujet. On ne peut pas être plus proche de l'actualité. Il s'agit du mannequinat et du développement du body positive chez les femmes et surtout chez les jeunes femmes. Moment de positivité, tout de suite avec le body positive. Le body positivisme est une nouvelle vision du corps féminin qui s'épanouit sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok. De plus en plus de femmes et de jeunes filles se détournent des clichés et critères de beauté normés qu'on impose à la femme. Elle brise certains tabous sur le corps de la femme et parle librement comme par exemple les règles, les poils, les rondeurs, les vergetures, la peau, qui tous peuvent être des sources de complexes. Si l'on ne rentre pas dans les cases de la minceur, de la blondeur, de la jeunesse, etc. Ce body positive permet d'accepter le naturel et de nous aimer tel que l'on est. Le mannequinat applique de plus en plus cette notion de body positive en faisant défiler tout type de personnes ayant chacune leur particularité, que ce soit des hommes ou des femmes. On a vu Rihanna, devenue créatrice de mode, faire défiler des femmes de toute morphologie. Ça, c'est du body positivisme. Il y a eu aussi Ellie Killeuse, qui est surtout connue pour ses posts Instagram où elle détourne tous les clichés pour montrer aux gens ce ne sont pas, entre guillemets, nos imperfections qui font de nous des personnes moins belles, mais que nous sommes toutes et tous simplement humains. Cela fait du bien et nous soulage et nous soulage de laisser de côté nos tabous. Et à présent, passons à notre dernier sujet qui est celui
de l'éducation de la femme au fil des années. Tout de suite, petit retour sur l'éducation de la femme au fil des siècles. Au XIXe siècle, les filles et les femmes sont interdites dans les lycées, créées en 1808 par Napoléon. En 1850, tout bascule car la loi Falloux impose aux communes de plus de 800 habitants d'ouvrir une école de filles. Cette nouvelle amélioration s'impose avec la loi Ferry qui reconnaît l'égalité des sexes devant l'instruction en 1882. En 1924, les hommes et les femmes suivent le même programme scolaire. En 1938, les femmes peuvent enfin s'inscrire à l'université sans l'accord de leur mari. Quelle avancée incroyable, imaginez-vous. En 1989, chacun peut faire les études qu'il souhaite pour réaliser le métier qu'il veut. D'ailleurs, savez-vous qui est que la première bachelière a été Julie-Victoire Daubier? Mais qui est Madame Daubier? Elle est née le 26 mars 1824 et est décédée le 26 août 1874 à l'âge de 50 ans. Cette jeune femme a été la première française à s'inscrire aux épreuves du baccalauréat à Lyon en 1861. Elle est la première à obtenir le bac le 17 août 1861. Enfin, jeune femme, au moment de ces épreuves, elle avait tout de même plus de 40 ans. C'est aussi la première licenciée en lettres, le 28 octobre 1871. Dans la vie, elle a été conférencière, écrivaine, pédagogue, chroniqueuse. Bref, un parcours brillant qui mérite d'être connu. Et bien voilà, c'est déjà la fin de notre petit rendez-vous. Je pense que nous avons fait le tour de ce dont nous voulions vous parler. Et pourquoi pas vous avoir appris de nouvelles choses. Ce fut un honneur d'avoir été avec vous aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne journée à toutes et à tous et restez sur la Radio des Falaises.
Radio des Falaises, le lycée du 76 qui vous informe.
La radio d'Angot qui ne vous raconte pas que des ragots.
On n'est plus des Vikings. Les Normands s'informent maintenant.
Radio des Falaises.
La radio Angot qui ne vous raconte pas que des ragots.
De l'intelligence dans vos oreilles.
C'est l'espoir que ces infos arrivent jusqu'à vous.